Radio Spirale. À partir de la biographie qu'il vient de faire paraître, Pierre Neveu présente quelques moments de la vie de Gaston Miron. Il se concentre ici notamment sur son enfance et sa jeunesse, une période que l'enquête de Neveu a contribué à mettre au jour. La lecture d'extraits est de Claude Laroche.
Je t'écris pour te dire que je t'aime. Que mon cœur, qui voyage tous les jours, le cœur parti dans la dernière neige, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti dans les ciels d'hypnose, revient le soir comme une bête atteinte. Qu'es-tu devenu, toi, comme hier? Moi, j'ai noir éclaté dans la tête, j'ai froid dans la main, j'ai l'ennui comme un disque rengaine. J'ai peur d'aller seul, de disparaître demain, sans ta vague à mon corps, sans ta voix de mousse humide. C'est ma vie que j'ai mal, et ton absence. Le temps saigne. Quand donc aurai-je de tes nouvelles? Je t'écris pour te dire que je t'aime, que tout finira dans mes bras amarrés. Que je t'attends dans la saison de nous deux. Qu'un jour mon cœur s'est perdu dans sa peine, que sans toi, il ne reviendra plus. Quand nous serons couchés côte à côte, dans la crevasse du temps limoneux, nous reviendrons de nuit parler dans les herbes. Au moment que grandit le point d'aube dans les yeux des bêtes découpées dans la brume, tandis que le printemps l'isronne aux fenêtres. Pour ce rendez-vous de notre fin du monde, c'est avec toi que je veux chanter sur le seuil des mémoires les morts d'aujourd'hui, eux qui respirent pour nous les espaces oubliés.
Alors, merci à Claude Laroche pour cette lecture du poème de Gaston Miron intitulé « Je t'écris », que vous aurez sans doute reconnu. Alors, je m'appelle François Ricard, je suis membre du comité littéraire des éditions du Boréal, et je suis là donc pour accompagner ces messieurs, pour vous dire d'abord que notre petite rencontre est enregistrée pour diffusion dans quelques jours sur Radio Spirale. Et aussi pour vous dire que Pierre Neveu pourra signer des exemplaires de son livre après notre rencontre. Alors, on me demande de vous présenter Pierre Neveu, que tout le monde connaît. C'est encore plus difficile de présenter quelqu'un qui est déjà connu. Alors, tout le monde le connaît, bien sûr, pour non seulement pour les honneurs qu'il a reçus. Pierre Neveu a reçu 3 fois le prix du gouverneur général du Canada. Il a reçu le prix David en 2005 pour l'ensemble de son œuvre. Mais tout le monde le connaît surtout, bien sûr, pour ses écrits, pour son œuvre, je viens d'employer le mot, son œuvre, étant donné, on peut parler d'une œuvre, je crois, étant donné la richesse, l'abondance, la constance, et bien sûr la beauté des livres qu'il a publiés. Tous ces livres qui font de lui, je dirais, l'écrivain complet par excellence, ne serait-ce que parce que l'œuvre de Pierre Neveu s'est déployée, et avec la même excellence, dans tous les genres littéraires, finalement. Pierre Neveu a publié deux romans. Je rappelle les titres, « L'hiver de Mira Christophe » et « Des mondes peu habités ». Il a une œuvre importante d'essayiste et de critique littéraire. En particulier, je suis heureux de le mentionner, ses 3 recueils d'essais publiés dans la collection « Papier collé » que je dirige au Boréal, L'écologie du réel, Intérieur du nouveau monde et Lecture des lieux. Mais, bien sûr, il y a aussi la poésie, et c'est, je crois, surtout pour sa poésie que Pierre Neveu est lu, est connu et aimé. Entre Voix rapide, son premier recueil publié il y a déjà 40 ans, en 1971, donc on célèbre un peu ses 40 ans de vie littéraire, ouais. Et Les Verbes majeurs, publié en 2009, il a publié donc 7 ou 8 recueils qui ont été réunis, sauf le dernier, je pense, qui ont été réunis dans un volume de la collection rétrospective aux éditions de l'Hexagone qui s'intitule « Le sens du soleil ». Or, non content de tout cela, non content non plus de ses activités infatigables dans le soutien et l'animation de la littérature québécoise et du milieu littéraire québécois, voici que Pierre Neveu s'est attaqué maintenant à un autre genre, la biographie littéraire, c'est un qu'il n'avait pas pratiqué jusqu'alors, avec la publication donc de ce Gaston Miron, « La vie d'un homme », un monument de 900 pages, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà pu le feuilleter et même le lire, qui était attendu depuis des années, en tout cas attendu de nous, probablement de lui aussi pour, sur les derniers milles, il avait bien hâte que ça finisse aussi, et qui est, bien, je pense que vous serez d'accord avec moi, qui est déjà et qui sera pendant très longtemps une sorte de somme, bien sûr, sur l'œuvre, la vie, la personnalité de l'auteur de L'Homme rapaillé. Alors maintenant, nous allons entendre, encore une fois, avant que Pierre Neveu prenne la parole, 3 autres poèmes de Gaston Miron, c'est-à-dire « Jeune fille », qui est extrait de « La marche à l'amour », puis « Héritage de la tristesse », qui vient de « La vie agonique », et « Poème de séparation 1 », qui vient aussi de « Marche à l'amour ». Alors, Claude Laroche, nous vous écoutons.
Jeune fille, plus belle que toutes nos légendes, de retour à la maison que protègent les mères, secrète et enjouée parmi les êtres de l'été, elle aimait bien celui qui cache son visage. Sur mon corps, il ne reste que bruine d'amour. Au loin, les songes se rassemblent à sa taille pour les bouquets d'eau de ses yeux trop beaux. Les yeux qu'elle a lui font trop mal à l'âme. Jeune fille plus perdue que toute la neige, les ans s'encordent sur mes longueurs de solitude. Et toujours à l'orée de ta distance lointaine, tes 1000 essaims de sourire encore m'escortent. J'en parle à cause d'un village de montagne d'où s'envolent des rubans de route fragiles. Toi et moi, nous y fûmes plusieurs fois la vie, avec les bonheurs qui d'habitude arrivent. Je parle de ces choses qui nous furent volées, mais les voudra la mort plus que l'ombre légère. Nous serons tous deux allongés comme un couple, enfin heureux dans la mémoire de mes poèmes. Il est triste et pêle-mêle dans les étoiles tombées, livide, muet, nulle part et effaré, vaste fantôme. Il est ce pays seul avec lui-même et neiges et rocs. Un pays que jamais ne rejoint le soleil natal. En lui, beau corps, s'enfouit un sommeil désaltérant, pareil à l'eau dans la soif vacante des graviers. Je le vois à l'abri des hasards, des lendemains. Il affleure dans les songes des hommes de peine. Quand il respire en vagues de sous-bois et de fougères, quand il brûle en longs peupliers d'années et d'oubli, l'inutile chlorophylle de son amour sans destin. Quand gît à son cœur de misaine un désir d'être, il attend, prostré, il ne sait plus quelle rédemption. Parmi les paysages qui marchent en son immobilité, parmi les haillons de silence aux iris de mourant, il a toujours ce sourire échoué du pauvre avenir avili. Il a toujours à sabrer avec les pagaies de l'ombre. L'horizon devant lui recule en avalanche de promesses. Démuni, il ne connaît qu'un espoir de terrain vague, qu'un froid de jonc parlant avec le froid de ses os, le malaise de la rouille, la vif, les nerfs, le nu. Dans son large dos pâle, les coups de couteau cuits. Il vous regarde exploiter du fond de ses carrières. Et par à travers les tunnels de son absence, un jour n'en pouvant plus, il perd à jamais la mémoire d'homme. Les vents qui changeaient l'essor de place la nuit, vents de rendez-vous, vent aux prunelles solaires, vent tellurique, vent de l'âme, vents universels, vent, ameutez-le. Et de vos bras de fleuve ensemble, enserrez son visage de peuple abîmé, redonnez-lui la chaleur et la profuse lumière des sillages d'hirondelles. Poème de séparation 1. Comme aujourd'hui, quand me quitte cette fille, chaque fois j'ai saigné dur à n'en pas tarir par les sources et les nœuds qui m'enchevêtrent. Je ne suis plus qu'un homme descendu à sa boue. Chagrins et pluies couronnent ma tête à garde, et tandis que l'oiseau s'émiette dans la pierre, les fleurs avancées du monde agonisent de froid, et le fleuve remonte seul debout dans ses vents. Je me creusais un sillon aux larges épaules. Au bout, son visage montait comme l'horizon. Maintenant, je suis pioché d'un mal d'épieux, Christ, pareil à tous les Christs de par le monde, couchés dans les rafales lucides de leur amour. Qui seul amour change la face du monde. Qui seul amour prend hauteur d'éternité sur la mort blanche des destins bien nascibles. Je t'aime. Et je n'ai plus que les lèvres pour te le dire dans mon ramas de ténèbres. Le reste est mon corps igné, ma douleur cymbale, nuit basalte de mon temps et mon cœur d'Éric. Je cahote dans mes veines de carcasse et de boucane. La souffrance a les yeux vides du fer blanc. Elle ravage en dessous, feu de terre noire, la souffrance la pas belle et qui déforme, et dans l'âme, un essaim de la mort de l'âme. Ma rose stellaire, rose bouée, rose, ma rose éternité, ma caille de tendresse, mon allant d'espérance, mon premier amour, au sein de pommiers en fleurs, dans la chaleur de midi, violente.
Alors, c'est presque difficile de parler après des poèmes d'une telle force. Je pense qu'entre autres, le poème de séparation 1 est un des plus beaux poèmes de deuil amoureux qui a jamais été écrit, personnellement. J'en suis convaincu. Écoutez, j'ai centré, d'ailleurs, le choix des poèmes, sauf peut-être poème de séparation 1 que Claude Laroche tenait à lire et je trouvais ça intéressant, mais finalement j'ai réussi à le raccorder aux autres, vous allez voir, mais on y reviendra après. Mais il y a un lien entre ces poèmes-là, « Je t'écris »,« Jeune fille »,« Héritage de la tristesse ». En fait, j'ai voulu centrer un peu cette soirée et vous allez entendre ensuite un extrait d'un chapitre de la biographie qui s'appelle « La légende d'Isabelle », autour de, surtout de la naissance du poète Miron. Naissance relative, parce qu'il écrivait déjà dans les années 40 des poèmes parfois assez naïfs. Il y a un début de mutation là, vers 1949-50, où il commence un peu à trouver sa voie. Mais c'est vraiment, et dans la biographie, c'est très marqué, 1952-53, et ce chapitre-là, pour moi, est peut-être le plus important, parce qu'aussi, en même temps, avec la naissance du poète Miron, c'est-à-dire, en gros, on peut dire la naissance des poèmes qui commencent déjà à annoncer, et même à ressembler beaucoup à l'homme rapaillé, à ce qu'on va trouver dans l'homme rapaillé, c'est évidemment, pour moi, le fil conducteur principal de cette... Il y en a d'autres, que je dirais plus secondaires, bon, l'histoire de l'éditeur, par exemple, ou et bien sûr l'histoire du militant, ses engagements successifs dans les années 50 déjà, au NPD, enfin à l'époque le CCF, donc aux élections fédérales, puis ensuite l'engagement bien sûr dans la cause indépendantiste, mais et dans les causes, dans les luttes linguistiques surtout, peut-être par la suite. Mais c'est évident que pour moi, le fil conducteur essentiel, c'est le poète, depuis le Mont-Sacré-Cœur où il griffonne des poèmes maladroits, jusqu'à la toute fin, 1993, où il propose une version qu'il s'empresse de préciser qu'elle est non définitive, de l'homme rapaillé dans la collection Typo, donc la dernière édition québécoise de son vivant. Pas tout à fait, puisque je vois que Claude lit dans aussi l'édition de 94, qui est le même texte, mais qui est simplement une édition, disons, plus luxueuse, qui était une édition anniversaire pour les 40 ans de l'Hexagone. Quelques mots, peut-être, pour présenter aussi l'extrait qui va suivre. Pour moi, Miron a toujours été fasciné par l'histoire, mais il faut jamais oublier chez lui le mot légende. C'est-à-dire, en tout cas, je pense que l'histoire telle qu'on peut la raconter, l'histoire des historiens, l'intéresse jusqu'à un certain point. Puis d'ailleurs, il y a une certaine Miron avait une connaissance cette histoire-là. Ces récits sont toujours scandés par des dates, que ce soit 1837, mais 1945, 1960, 62, 63 avec le parti pris et tout. Mais finalement, je pense que pour lui, l'histoire est intéressante dans la mesure où elle se dit sur le mode de la légende. Il a souvent cité d'ailleurs ces vers de Patrice Latour-Dupin qu'il dit avoir lu dans une librairie par hasard. Tous les pays qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid. Et pour moi, il y a deux grandes légendes qui nourrissent la poésie de Miron. Je vais insister plus sur la deuxième, peut-être, mais la première est d'une certaine façon incluse dans la deuxième. La première, c'est la légende du pays pauvre, plongé dans le noir analphabète. Bon, on connaît l'histoire de son grand-père. C'est le pays de sa mère, en fait, c'est le pays de Saint-Agricole. Et en fait, les poèmes de la Batèche et les poèmes de la vie agonique, à plusieurs égards, et même on peut citer d'autres poèmes plus tardifs, viennent tous de ce fond, je dirais, de pauvreté et de noirceur. Un pays que jamais ne rejoint le soleil natal, c'est aussi ça. C'est le pays qui est nocturne, qui est vraiment dans le noir et dans le froid. Et donc, ça, c'est une première légende qui, j'entrerai pas dans les détails, on pourrait y revenir après, mais c'est évident qu'elle suppose une reconstruction dans la biographie, je dirais qu'en gros, si on veut résumer, je dirais que Gaston Miron, né à Sainte-Agathe, ou comme il l'a dit lui-même au début d'un texte qui s'appelle « Le bilingue de naissance »,« Je suis né à Sainte-Agathe, PQ », c'est sa première phrase, en fait, doit renaître à Saint-Agricole, donc le pays de sa mère ou de ses grands-parents aussi, maternels, pour que l'homme rapaillé ait lieu. Et la Batèche et la vie agonique doivent beaucoup à ça. La deuxième légende qui est fondamentale, et c'est justement le titre que je donne à ce chapitre-là, que je me souviens pas si c'est le septième ou huitième, la légende d'Isabelle. Huitième? La légende d'Isabelle. Donc, une légende de l'amour qui donne naissance, pour l'essentiel, dès 1952-53, à ce qui va devenir la marche à l'amour, mais qui est encore assez embryonnaire, qui, en fait, prend surtout la forme d'une grande suite qui, aujourd'hui, est perdue en partie, parce qu'elle a été achetée dans un encan, puis ensuite égarée par la personne qui l'a achetée, une dame de Westmount, que j'ai connue, mais que, je sais pas, elle a déménagé, puis le poème, bon. Alors, ça s'appelle « Les paroles du très souvenir ». Paroles du très souvenir, c'est bizarre, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Alors, c'est une grande suite de 22, 23 poèmes à Isabelle. Bon, et là, c'est clairement Isabelle Ise ou Isa. Ce nom-là revient constamment dans le poème. Bon. Alors, pour moi, ces deux légendes-là, la légende du pays pauvre plongé dans le noir en alphabet et la légende d'Isabelle, c'est vraiment les deux sources fondamentales de l'homme rapaillé. Pour moi, on peut pas comprendre l'homme rapaillé. Et s'il y a une utilité de la biographie ici, c'est peut-être d'avoir cherché à cerner davantage comment ces légendes-là se sont construites, à travers quels oublis ou quelles omissions, à travers quelle transfiguration ou reconstruction pour en arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est sûr que, donc, comme je le disais au début, le choix des poèmes lus par Claude Laroche, précisément, correspond à ce moment de la légende d'Isabelle, une femme qu'il rencontre en février 1952, et la liaison va durer, ou l'amour va durer avec des interruptions, parce qu'il y a un premier échec à l'été 52, ça reprend à l'hiver 53, mais ça dure pas très longtemps, donc on peut dire au printemps 53, c'est terminé. Donc, au total, ça dure pas beaucoup plus que 15 mois, la relation entre les deux. Mais c'est une relation extrêmement importante et qui correspond aussi beaucoup plus tard dans sa vie. Miron, par exemple, dans une conférence qu'il avait donnée ici, à laquelle j'ai assisté en 1990 à l'Université de Montréal, il racontait qu'en 1952-53, il s'était passé une mutation énigmatique, dit-il, dans sa poésie. Mais en fait, énigmatique, l'énigme tient beaucoup à Isabelle, mais dans la conférence, il ne la mentionne pas, probablement par pudeur. Donc, c'est ça que je voudrais cerner un peu. Alors, « Je t'écris », c'est un poème à Isabelle, c'est celui que Claude a lu au début, et Miron va le publier à l'automne 53 dans 200, son premier recueil conjoint avec Olivier Marchand, à l'été, en fait, 53. Donc, c'est le coup d'envoi aussi des éditions de l'Hexagone. Jeune fille, alors jeune fille plus belle que toutes nos légendes, de retour à la maison que protègent les mères. Un jour, tout près d'ici, au café Second Cup au coin de Dessel et Queen Mary, j'ai rencontré Isabelle. J'ai été très impressionné parce que c'était une femme très digne, évidemment environ 70 ans, très digne, très discrète aussi, fragile un peu aussi, réticente à trop parler de cette relation. Mais une chose dont je vais toujours me rappeler, c'est qu'elle avait quelques poèmes avec elle, et un des poèmes, c'était le poème « Jeune fille ». Sauf que le titre, c'était « La légende d'Isabelle ». Alors, mon titre vient de là. Essentiellement, c'est que « Jeune fille », c'est « La légende d'Isabelle ». 1953, début 53. Alors, « Héritage de la tristesse », vous l'avez entendu, c'est un poème grandiose, un peu à la... Le début ressemble un peu à du Victor Hugo, « Il est triste et pêle-mêle dans les étoiles tombées », on a l'impression qu'on est dans la légende des siècles. Il y a beaucoup d'ébauches de ce poème-là qui datent de la même époque, mais surtout un vers qui est celui-ci, qu'on retrouve dans une multitude de brouillons de Miron, mais des brouillons qui sont souvent inclus dans les poèmes à Isabelle. Et le vers qui revient toujours, c'est celui-ci, « Il y a des pays qui sont seuls avec eux-mêmes et jamais ne les rejoint le soleil. » Alors, ça donne dans le poème final, « Il est ce pays seul avec lui-même et neige et roc, un pays que jamais ne rejoint le soleil natal. » Mais ces vers... Alors, Miron, à l'époque, il essaie toutes sortes de développements à partir de ces deux vers-là. « Il y a des pays qui sont seuls avec eux-mêmes et jamais ne les rejoint le soleil. » Et en 55, je crois, il publie dans Le Devoir une première version de ce poème-là qui est assez différente de celle qu'a lu Claude, mais qui commence à ressembler un peu au poème définitif. Je reviendrai à ça après, parce que donc, il y a des pays qui sont seuls avec eux-mêmes. C'est relié aussi à la légende d'Isabelle. Bon, c'est assez intéressant. Enfin, le poème de séparation 1, lui, il est complètement dans une autre époque. Alors, on peut se demander quel lien je vais faire. Et je vais garder le suspens, vous le dire tout de suite. Mais il est plus tardif, puisqu'il est écrit au cours de l'hiver 1960-61 à Paris, au moment où Miron vit un autre échec amoureux, vraiment spectaculaire et particulièrement déchirant, avec cette fois-là une femme qui s'appelle Rosemary. Mais vous avez entendu dans le poème, à la fin, « Rose, Rose, ma rose bouée ». Alors, c'est le moment le plus proche dans L'homme rapaillé de nommer une femme, parce qu'en général, il n'y a jamais de nom de femme. La seule femme nommée dans L'homme rapaillé, c'est sa fille, Emmanuelle. Il n'y en a aucune autre. Mais Rose, c'est déjà presque ça, mais c'est un peu camouflé, c'est pas Rosemary. Mais en tout cas, Rose, ma rose bouée, ma rose éternité. Bon, tout ça. Alors, l'extrait que va lire Claude Laroche, précise donc, ça se situe à ce moment charnière de 1952-53, où Miron découvre vraiment sa voix poétique, là. Alors, il y a des lettres à Isabelle qui sont intéressantes de ce point de vue-là, à ce moment-là. Miron, en tout cas, évoque clairement les poèmes qu'il lui a envoyés, parce qu'il a joint aux lettres qu'il lui a envoyées, il a joint des poèmes. À un moment donné, dans une lettre de l'hiver 52, au moment où ils ont rompu, mais ça va reprendre ensuite en février, il lui demande de lui rendre ses lettres, mais pas les poèmes. Les poèmes, il dit, de toute façon, ils vont être publiés, puis donc ils vont devenir, ils vont se trouver dans le domaine public. Mais il y a surtout une autre phrase qui est particulièrement intéressante. Je crois que c'est la seule fois dans sa vie, et non seulement je crois, mais je suis sûr, que c'est la seule fois dans sa vie que Miron a écrit ou a dit cette phrase-là. « J'ai beaucoup écrit de poèmes depuis septembre, et des plus beaux. » J'ai beaucoup écrit. Jamais Miron, à un autre moment de sa vie, ne va dire ça. Il dit toujours qu'il a écrit très peu ou pas du tout, qu'il n'écrit plus. Qu'il est... Bon, mais cette fois-là, il dit « J'ai beaucoup écrit depuis septembre. » Et des plus beaux, en plus, ça aussi, il ne le dit pas souvent, parce qu'en général, il est plutôt modeste et même critique à l'égard de ce qu'il a écrit, et la beauté, ce n'est pas tellement son affaire, selon lui. Alors, dans les pages qui précèdent l'extrait que vous allez entendre, alors donc, j'évoque ces déclarations-là, je relativise aussi là, la question de la mutation subite, parce que dans la conférence de 1990, Miron disait, en 52-53, en 6 mois, je suis passé de poèmes complètement nul et enfantin à des poèmes qui sont déjà dignes de l'homme rapaillé. C'est faux. C'est une exagération, en tout cas, puisque dès 1949-50, on trouve déjà des poèmes qui annoncent un peu l'homme rapaillé, mais il demeure vrai, c'est ce que je dis dans ce qui précède, que il se passe tout de même quelque chose de décisif en 52-53 et c'est que là, vraiment, les poèmes prennent leur envol et les poèmes trouvent leur forme, je dirais, et leur ton, qui est vraiment le ton inimitable de Gaston Miron. Alors donc, voilà, on peut écouter peut-être quelques pages de cette, donc, du chapitre « La légende d'Isabelle » qui va nous lire.
Qui est le chapitre 7. Et non
chapitre
pas
7? Lui. Ah bon.
À la mi-juillet 1952, il inclut dans une lettre à son amoureuse ce quatrain, sûrement écrit durant l'intervalle malheureux du mois précédent, quand tout semblait révolu. Ô souvenir soleilleux d'Isabelle et de la vie, ô rosée, ô merveilleux, sur mon âme la prairie. C'était là peut-être son ultime effort pour écrire l'amour perdu dans le style de quelque lyrisme ancien, sur le mode d'une chanson archaïque. Avant que grondent les chiens de ton destin, l'âme était une ronde et la terre un jardin. Ces chiens méchants promettaient bien un ton plus âpre pour se taire aussitôt dans une chute trop jolie et assez impersonnelle. Mais voici bientôt une strophe insérée dans son journal du 28 février 1953 et qu'il joint à sa lettre à Isabelle. Qui ne devine de nous deux ce soir ce qu'il nous faut écouter, l'oreille comme un coquillage? Quel pays du son bleu, un chant ignoré, mon amour en émoi dans l'octave du don. On reconnaît la deuxième strophe de ce qui deviendra mon bel amour, dont les premiers vers apparaissent dans une lettre datée de la mi-mars. Mon bel amour navigateur, mains ouvertes sur les songes, tu sais la carte de mes mains. Accompagnant un immense montage typographique où les noms Isabelle et Isa sont dactylographiés une centaine de fois en une sorte de poème concret formant un blason. Mon bel amour, c'est là sans doute l'un de ces beaux poèmes que Miron annonçait avoir écrit depuis septembre. Et il en existe sûrement alors une version complète, puisque la petite équipe de l'Hexagone en est déjà à la composition de 200. Une mutation énigmatique dans l'espace de 6 mois, comme le racontera Miron? C'est bien ici, très exactement, qu'elle se produit, mais ce n'est qu'un début. Que dire de Maravi, qui paraîtra également dans 200, et que Miron n'a pu écrire qu'entre septembre et février, durant un nouvel intermède noir? Je t'écris pour te dire que je t'aime, que mon cœur, qui voyage tous les jours, le cœur parti dans la dernière neige, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti dans le vent des cordages, le cœur parti dans les ciels d'hypnose, revient le soir comme une bête atteinte. Émouvante simplicité du premier vers, analogue au « je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise » qui ouvre les regards et jeux dans l'espace de Saint-Denis-Garneau. C'est la suite qui change tout. Comme chez les musiciens capables de transformer les mélodies les plus ordinaires en développements magnifiques. Ici résonne déjà dans une forme libérée le départ de Miron pour son fameux voyage à Bracadabra. Et en même temps que se fait entendre une tonalité unique, le gémissement de l'animal blessé. Car il a confié à Olivier Marchand au printemps de 1952 « Je suis une bête à souffrance ». Le soir du 17 février 1953, un Miron tourmenté au comble de la désolation a griffonné un poème pour commémorer en un rite presque macabre l'anniversaire de la connaissance d'Ise. Il ignore que 10 jours plus tard, il passera des heures merveilleuses avec elle à Granby. Ce poème du 17 février, demeuré à l'état de manuscrit, est l'un de ses plus noirs. Ô nuit atroce, nuit de l'attente sans fond, ô nuit du tocsin dans mon cœur en déchirure, nuit qui roule sa meute d'angoisse sur mon corps, nuit où résonne le gond de mon destin, ô nuit du naufrage au large de l'espoir. Présente ou absente, mais surtout absente, Isabelle le fait écrire. Il touche à travers elle un fond inépuisable, d'une souffrance sans doute éprouvée bien avant, dans sa solitude de jeune homme pauvre errant dans le centre-ville. Mais ayant trouvé soudain en la figure de cette femme une sorte d'ancrage, un foyer poétique. Et alors, du même coup, ce sont toutes les formes apprises et les quatrains jolis qui éclatent, pulvérisées par une force irrépressible. C'est comme la permission de tout dire, sans apprêt, de lancer une danse folle qui fait voyager même le folklore vers l'espace du poème et qui pousse violemment le corps vers les mots, comme le montre cet autre poème écrit sur du papier à en-tête de l'ordre du bon temps. « Oh, violonneux de ma vie, la grande bacchèse et le chagrin, légèrement seul, la tête, le corps manche à balai, les pieds, partout les pieds, à se faire aller d'un bord et de l'autre, par bourré, par désespoir de ne jamais finir. Ah, gigue, gigue, Miron, jusqu'à disparaître dans l'immersion de ta fatigue, jusqu'à la dérive des sens dans l'oubli, jusqu'à la sueur de ton âme en lavette. » Oui, c'est déjà la bêtèche qui se profile avec son corps emmanché d'un mal de démanche. Et c'est peu dire qu'on se trouve loin des quatrains maniérés que Miron écrivait au début de l'été 1952. « Te souviens de la chair, d'elle et des floraisons, elle fut la première à te faire raison. » Et qu'il n'osera encore publier à la toute fin de 1953 dans « Amérique française », qu'il osera encore publier. Si les premiers jalons de la légende d'Isabelle peuvent apparaître comme un accès presque miraculeux au registre qui sera celui de l'homme rapaillé, c'est que Miron était en retard sur lui-même. Lui qui avait déjà compris bien des choses sur la poésie, sans pouvoir mettre en œuvre ses intuitions. N'avait-il pas cerné un enjeu fondamental de son écriture et de son propre personnage d'écrivain dès juin 1950, dans ce passage capital d'une lettre à Guy Carle. Je me moque bien de la littérature maintenant. Je ne veux être fidèle qu'à l'homme, à la vie. Je ne crois plus à une carrière littéraire pour moi. Et j'écris de plus en plus mal. Ma phrase est informe et n'a plus de nerfs. Si j'ai perdu la clé de mon expression, le tourment d'écrire, de dire mon message demeure, lui. Quelque chose en moi, je crois, c'est pour toujours dissocier. Quoi? L'expression et l'inspiration. Je suis un égaré, un enchaîné de l'azur, un prisonnier de l'inconnu. Il arrive un moment où l'expression, règle, cadre, etc., ne peut plus suivre l'inspiration, la pensée. La plupart des poètes restent en deçà de la ligne de démarcation, de la ligne d'équilibre. En deçà, les règles et les cadres ont leur place. En deçà, on peut parler. Dans cet étrange pays de l'au-delà, tout est impondérable. Tout se tait. Seuls les poètes qui ont engagé non seulement leur âme, mais aussi leur corps, ont traversé la ligne d'équilibre. Et ils se sont tus. Là est le mystère de Rimbaud, par exemple. Comme tous ceux-là, j'ai atteint le pays de l'inexprimable, pays de tourmentes souterraines, de grands lacs bleus, d'êtres étranges qui passent. N'est-ce pas cet étrange pays de l'au-delà qu'Isabelle lui permet d'accéder? Le paradoxe est évidemment considérable, puisqu'il annonçait à son ami de Rouen, puisque ce qu'il annonçait à son ami de Rouen, c'était ses adieux à la littérature et à la poésie, répétés d'ailleurs 100 fois dans sa vie. Mais ces adieux, cette dénégation, sa lettre à Karl, écrite alors qu'il n'avait que 22 ans, montraient bien qu'on ne pouvait les réduire à une pure coquetterie ni à la mauvaise foi. Au contraire, quelque chose d'essentiel se disait là, dans une perception fulgurante. Le problème même d'une énergie physique et psychique qui emporte l'expression au-delà d'elle-même, qui va jusqu'à la briser par trop de force. Le poète, en gestation et en refus de lui-même, sentait bien que ce problème-là était le sien, le concernait au plus près, et que cela avait peu à voir, au fond, avec la langue et la grammaire. Là où il se trompait, c'est en croyant que ce besoin d'écrire au-delà de l'expression, de ses règles et de ses cadres, confinait forcément au silence. Il n'avait pas vu en 1950 que cette cassure du discours, cette perte de toute forme, ce deuil radical, pouvait aussi, paradoxalement, être l'accès à une autre langue, à une voix inouïe, celle de Gaston Miron. Ce qu'il pressentait toutefois, comme l'avait révélé sa réaction à la lecture de la lettre de l'été 1949 du père Robillard, qui lui recommandait de faire beau, c'était que faire beau n'était pas son affaire. Ou plutôt, c'était que sa beauté à lui allait se gagner dans l'âpreté du malheur rageusement combattu.
Alors, il y a quelques petits éléments, je vais expliquer. D'abord, Guy Karl, qui se trouve à Rouen à ce moment-là, c'est le frère de Gilles Karl. Ils se sont connus à Montréal. Les frères Karl sont venus étudier à Montréal vers 1948. Gilles Karl étudie à l'École des beaux-arts. Guy, je me souviens pas exactement, mais en tout cas, Guy, rapidement, va retourner dans son pays natal de Rouen, où les frères Karl avaient été élevés. Et donc, c'est un extrait d'une lettre qui, pour moi, est un extrait absolument magnifique. Et il faut voir qu'il n'a que 22 ans, Miron, à ce moment-là, là, où il cerne d'une manière fondamentale, je pense, tout l'enjeu de sa poésie. Donc, c'est dans une de ces lettres-là. Il y a une correspondance assez importante entre les deux hommes, entre 1949 et 51. L'autre référence, c'est au père Robillard. En 1949, quand Miron participe à son premier concours de poésie. C'est un concours qui se tient à Ottawa par un groupe qui s'appelle Le Caveau. C'est le père Robillard qui publie la revue qui va réunir les poèmes lauréats. Alors Miron ne gagne pas de prix important, il a une deuxième mention, donc c'est modeste. Mais c'est vrai qu'ensuite le père Robillard lui écrit, Monsieur Miron, vous avez du talent, mais il y a quand même des choses un peu, disons un peu rocailleuses, ou en tout cas un peu maladroites, vous devriez faire plus beau. Vous devriez faire beau. Et Miron, sur la lettre même, dit non, faire beau, il n'a pas compris. C'est pas mon affaire, faire beau. Alors, c'est quand même important, cette remarque-là, puisque finalement, c'est dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, convulsif que la poésie de Miron a lieu. Alors, je vais faire quelques commentaires là-dessus, peut-être. C'est un peu aussi une sorte de commentaire final. Je pense que Miron cerne à ce moment-là avec une extraordinaire profondeur que sa poésie se situe au-delà de la littérature, quoique finalement Il va retrouver forcément la littérature, hein, on n'y échappe jamais complètement. Mais l'idée surtout que c'est au-delà de l'expression. Hein, et la référence à Rimbaud est intéressante. Miron ne se réfère pas si souvent que ça à Rimbaud, mais c'est l'idée donc que ça pourrait le conduire au silence. Et en 1950, c'est ce qu'il croit, que son inspiration dépasse tellement l'expression qu'il est impossible qu'elle puisse trouver un langage. Donc, alors c'est pour ça que j'en ai fini la carrière littéraire pour moi. Non, c'est assez typique de Miron, c'est qu'il a toujours déjà terminé avant de commencer. Que c'est, à la même époque, il va dire à André Maillet dans une lettre « Je suis un homme fini ». Enfin, c'est terminé. Il a 22 ans encore, 23 ans. Donc, l'idée que son inspiration ne peut pas trouver de langage, mais alors bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que au contraire, ça va à l'époque d'Isabelle, ça se retourne en quelque chose de positif. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire là-dessus, c'est que dans cette lettre-là, c'est au-delà de l'expression. Il utilise beaucoup la métaphore du pays. Hein? Cette métaphore-là est très redondante dans l'extrait de la lettre qu'a lu Claude Laroche. « Cet étrange pays de l'au-delà. » Bon. J'ai atteint le pays de l'inexprimable. Pays de tourmentes souterraines, de grands lacs bleus, d'êtres étranges qui passent et tout ça. Donc, il y a là un pays, mais qui ne peut pas se dire, qui échappe au langage. Bon. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi j'avais choisi Héritage de la tristesse, il est ce pays seul avec lui-même et neige et roc, c'est que, précisément, la légende d'Isabelle, en 52-53, elle reprend cette figure du pays. Ce pays de l'au-delà, du lointain, et donc, dans la séquence que j'ai mentionnée plus tôt, il y a des pays qui sont seuls avec eux-mêmes et jamais ne les rejoint le soleil. Alors, c'est intéressant parce que c'est dans la trame d'un poème d'amour, dans les brouillons, dans la suite de ce que j'ai appelé là, les paroles du très souvenir, ce poème, cette suite poétique perdue et qui date de 52-53 et qui est dédiée à Isabelle. Eh bien, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça s'interrompt, il fait l'éloge d'Isabelle et il y a des pays qui sont seuls avec eux-mêmes et jamais ne les rejoint le soleil. Alors, je pense que ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il se crée à la faveur de, si on peut dire à la faveur, parce que c'est pas une faveur, c'est vraiment douloureux, il se crée une sorte d'équivalence entre le Miron mal-aimé d'une part et le pays mal-aimé d'autre part. Entre le Miron plongé dans le noir de la souffrance amoureuse et le pays qui est comme, alors, seul avec lui-même, donc délaissé, dont on s'est détourné, et qu'il faut retrouver. Et alors, bien sûr, à la fin du poème, c'est les vents qui reviennent dans ce poème-là, mais dans d'autres, évidemment, c'est plus les hommes qui le prennent en charge. Mais c'est ce pays-là, de la même manière que Miron plongé dans une nuit atroce, enfin, l'extrait de février 53, où Miron est là, il croit que c'est terminé pour toujours avec Isabelle, ça va reprendre un peu. Donc, il est dans le noir et dans le froid. Le pays, de la même manière, est dans le noir et le froid. Donc, il y a une sorte d'identification ici qui se fait à travers la peine amoureuse, de sorte que le politique chez Miron, on n'est pas encore au stade vraiment du politique au sens, en tout cas, de poèmes qui seraient explicitement politiques. Ils le sont, même Héritage de la tristesse. Est-ce que c'est, oui, d'une certaine façon, ça conduit au politique, mais c'est pas un poème aussi engagé que d'autres qu'on peut trouver dans la vie agonique et ailleurs dans l'homme rapaillé. Mais il y a là comme une ouverture vers le politique, c'est-à-dire une certaine représentation du pays qui est à distance, qui est dépossédé de quelque chose, qui est froid et glacé, nocturne, et à qui il faut redonner de la chaleur, alors redonner-lui la chaleur et la profuse lumière des sillages d'hirondelles, donc lui redonner un ciel, lui redonner un... Bon. Alors, cette liaison-là, je la trouve très intéressante, de sorte que d'ailleurs, ça c'est frappant, dans plusieurs poèmes de Miron qui sont devenus politiques. Par exemple, « Compagnon des Amériques »,« Mon Québec »,« Ma terre amère »,« Ma terre amande ». Au début, dans les premières versions, c'est pas un poème au pays, c'est un poème à la femme aimée. L'orientation est complètement différente et c'est peu à peu, d'abord ça va devenir à un moment donné « Canada »,« Ma terre amère »,« Ma terre amande » dans les premières versions, parce qu'il parle pas encore du Québec, vers 57. On a « Compagnon des Amériques »,« Canada »,« Ma terre amère ». Voir le mot « Canada » sous la plume de Miron aujourd'hui, c'est un peu étonnant, mais à l'époque, c'est comme ça, il y a une sorte de genèse là. Je reviens enfin au poème de séparation 2. C'est le deuxième poème de séparation dans le poème de séparation 1 plutôt, qui est à la fin du cycle de la marche à l'amour. Et c'est le seul qui n'est pas contemporain de la légende d'Isabelle dont Claude a lu un extrait. Alors, je lis cet extrait de Des paroles du très souvenir en 1952-53. Alors, il parle d'Isa. Alors, Isa, vous allez voir, c'est un langage qu'on n'est pas habitué de voir chez Miron, parce qu'on pense toujours que Miron, c'est le poète des Laurentides. Vous allez voir que là, c'est autre chose. La raison, je vais quand même expliquer, d'ailleurs, je pense que le mot « grembé » était mentionné dans le texte, c'est que Isabelle, il l'a connue quand elle était professeure, institutrice, elle enseignait à Montréal, mais l'année suivante, en février 52, elle enseignait à Montréal, mais durant l'année scolaire 52-53, elle enseigne à Grembé. Et donc, en février 53, là, après le moment où il pense que c'est fini, il lui rend visite à Grembé, et donc là, ça reprend pendant quelques semaines. Grembé, lui-même, d'ailleurs, a étudié chez les frères beaucoup plus tôt dans sa vie. Alors, on a ce passage. « Isa, lointaine et secrète, tu es belle comme la plénitude des cantons. » Dans ton corps, comme les vergers en fleurs, comme la croupe indomptée de Saint-Paul, ou du Shefford, ou de Lawford. Alors donc, là, on a toute la géographie des cantons de l'Est, là, tout d'un coup, qu'on n'attendait pas particulièrement chez Miron, mais qui s'explique très bien par le contexte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Miron écrit le poème de séparation, plusieurs années après, pour Rosemary, comme j'ai expliqué, il est à Paris, hiver 60, il est dans un état terrible de dévastation, c'est probablement encore pire qu'à l'époque d'Isabelle. Il y a un effet cumulatif, des échecs amoureux chez Miron dans les années 50. Et alors, à la toute fin du poème, on associe Rose Teller, ma rose bouée, rose, ma rose d'éternité, mon premier amour au sein de pommiers en fleurs. Alors, dans ton corps, comme les vergers en fleurs à Isa, 52-53, et les seins de pommiers en fleurs. Et il dit aussi à Rosemary, c'est quand même étonnant, mon premier amour au sein de pommiers en fleurs. Mais le premier amour, c'est Isabelle, c'est pas Rosemary, elle vient en quatrième place, probablement, même si elle est très importante. Donc, il y a comme une mythologie de l'origine aussi. C'est pour ça que pour moi que la légende d'Isabelle est à ce point importante, c'est que finalement, même dans ses amours ultérieurs, et même encore avec Rosemary, qui va marquer un peu le point final de la marche à l'amour, parce que peu après, il va publier le poème dans le Nouveau Journal, en 62, l'année suivante. Donc, à travers tout cet effet, cette reprise, cet effet cumulatif, la légende originelle, si on veut, celle qui concerne Isabelle, reste très active, très agissante, de sorte qu'il y a même à propos de Rose, il peut dire « mon premier amour au sein de pommiers en fleurs ». Ça en dit long, sans doute, sur la fécondité de cette période-là, où la légende de l'amour et la légende du pays se nouent, si on peut dire, pour donner naissance à l'homme rapaillé. Alors, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup à dire, peut-être je conclurai là-dessus, sur ce que j'ai appelé la légende du pays pauvre, de plonger dans le noir analphabète. Ça suppose, je le raconte quand même assez en détail, bon, je m'excuse pour ceux qui ont peut-être déjà lu, c'est le début surtout, parce que c'est dans les premiers chapitres, à quel point le père de Miron est mort quand Miron avait 12 ans, ce qui explique en partie que le père devient au fil des années une figure forcément un peu fuyante, mais aussi forcément idéalisée, je dirais aussi très réduite à certains traits, essentiellement au fil des années, et plus Miron avance en âge, plus le père de Miron, cette mémoire-là d'un père qu'il a perdu très tôt, se réduit essentiellement à deux caractères, c'est-à-dire d'un côté l'artisan, c'est-à-dire le menuisier qui travaillait le bois, et d'autre part, l'homme qui ne savait pas assez l'anglais pour pouvoir parler à ses clients d'une façon convenable, parce qu'il y avait beaucoup de clients donc pour lesquels il fabriquait des portes et fenêtres, essentiellement dans les Laurentides, puisque c'était une époque où il y avait beaucoup de construction. Donc des clients anglophones, juifs, autour du lac des Sables, mais même beaucoup plus loin, il couvrait un territoire assez grand. Alors donc, c'est ces deux traits-là qui restent, mais en même temps, il oublie d'autres traits. Je note dans la biographie signifie qu'à 20 ans, Miron ne décrit pas son père comme un artisan, ni comme un homme qui ne savait pas l'anglais. Il le décrit comme un homme qui a accédé à une certaine bourgeoisie, à une petite bourgeoisie, qui a quitté le... Parce que le grand-père de Miron, du côté paternel, était comme son grand-père maternel analphabète. Donc, le père de Miron a accédé à un certain savoir, mais surtout à une certaine maîtrise technique et aussi à un certain confort économique, puisque dans son enfance, Miron vit... à l'aise, dans une maison où on manque de rien. C'est seulement après la mort de son père que là, les choses vont se gâter. Mais donc, cette idée de l'ascension sociale de son père, c'est quelque chose qui disparaît peu à peu de son récit paternel. Et alors, c'est pour ça que je dis, il y a une refondation du côté de Saint-Agricole, alors là, du côté le plus misérable des Laurentides, le plus noir, et du côté aussi de... pauvreté, analphabétisme, où les deux vont de pair. Et là, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, parce que je mentionne des textes, par exemple, de Fernand Dumont et d'autres, toute cette mythologie aussi de la pauvreté qui joue dans les années 50, qui est à la fois ancrée dans une réalité, que les Canadiens français, effectivement, économiquement, sont au bas de l'échelle économique au Québec, mais qui joue aussi sur autre chose, qui est une sorte de... je dirais jusqu'à un certain point de sacralisation de la pauvreté. Et ici, avec des références chrétiennes très importantes, où le Christ, la figure du Christ apparaît comme l'emblème du prolétariat, le Christ pauvre, le Christ qui a combattu l'establishment, la richesse, et qui, d'ailleurs, dans la théologie de la libération, dans les années 60, va nourrir, c'est une image qui va être très forte. Finalement, le Christ devient presque une figure marxiste. C'est le premier prolétaire, c'est celui qui peut inspirer tous les prolétaires en vue d'une révolution, d'une révolte et d'une révolution. Alors, il y a une mythologie de la pauvreté qui se crée à ce moment-là, et que Miron assimile d'une façon très, très forte et qui va donner, par exemple, le poème Paris, un poème, curieusement, ça s'appelle Paris, le cœur serré, il dit « j'ai le cœur serré comme les vieilles maisons d'Europe », avec la pauvreté natale de ma pensée rocheuse. Et c'est très intéressant de voir, et ça je dois dire, c'est Marie-André Baudet qui un jour m'est arrivé avec ce poème-là, Paris, et elle dit, regarde, c'est une vieille version, et le titre c'est « Depuis Saint-Agricole ». Donc là, on voit très bien que même en parlant de Paris, la vraie origine, c'est Saint-Agricole. C'est donc ce pays, la pauvreté natale de ma pensée rocheuse. Donc, ce pays dépourvu, ce pays stérile, en tout cas très peu fertile, où il va puiser quelque chose de fondamental dans sa poésie. Alors donc, la légende du pays, elle a besoin de tout ça. Alors, il y a un paradoxe là-dedans aussi, pour terminer, c'est que Miron, finalement, trouve sa vraie inspiration poétique du côté maternel, du côté de ses grands-parents maternels, et pourtant, sa mère est presque jamais mentionnée dans ses entrevues, je pense que probablement personne... avant la biographie, où très peu de gens savaient que sa mère s'appelait Jeanne Michauville. Est-ce que quelqu'un savait que le nom de la mère de Miron, c'était Michauville? Bon, très peu en tout cas. Et donc, c'est assez bizarre, ce silence sur sa mère, alors qu'en fait, tout l'héritage de sa mère a nourri sa poésie. Et la pauvreté de sa mère aussi, non seulement sa pauvreté de naissance, parce que donc à Saint-Agricole, mais par la suite aussi, sa mère est la figure même de la pauvreté. Bon, elle s'est remariée avec M. Forgette et tout, mais elle reste quelqu'un fondamentalement de pauvre, de démuni, sa vie est difficile, c'est une femme courageuse. Qui a fait qu'une cinquième année à l'école, qui est pas très instruite, mais qui en même temps a un goût pour la culture tout de même, faisait la lecture à ses enfants et tout, découpait même des poèmes ou des citations dans les journaux qu'elle gardait précieusement. Tout le côté archiviste de Miron vient aussi beaucoup de sa mère. Alors là, j'ai pas de réponse précise à ça, sinon en tout cas que finalement dans son discours, on dirait toujours que c'est toujours la lignée patriarcale qui l'emporte, c'est toujours la figure des hommes. Alors soit les Miron, la lignée des Miron, donc son patronyme, ou bien alors du côté de sa mère, le grand-père puis les oncles qui connaissaient la forêt, qui faisaient du portage, qui allaient sur les lacs, qui l'amenaient d'ailleurs sur les lacs l'été quand il allait à la maison de son grand-père. Alors, bon, ça nous laisse sur ce silence-là aussi, mais en même temps sur ce fonds de Saint-Agricole, la vallée de l'Archambault, qu'il a appelé plus tard, qui est une invention. Alors là, on est vraiment dans la légende, parce que la vallée de l'Archambault, ça n'existe même pas. C'est, il n'y a pas de vallée de l'Archambault. Il y a une vallée de la Lièvre, une vallée de la rivière Rouge, la vallée de la Gatineau, mais il n'y a pas de rivière Archambault, et il n'y a pas de vallée de l'Archambault, mais il lui-même le dit, j'ai comme inventé cette vallée-là, comme lieu de mythique, à la fois de pauvreté et de beauté, où vole la corneille le soir, et avec les parois rocheuses. Enfin, je vous renvoie au poème très beau, je ne l'ai pas ici, là, mais Fragments de la vallée, qui est le poème qui dit par excellence cette vallée de l'Archambault. Alors, voilà. Donc, je m'arrête ici, mais on peut continuer sous la forme de questions.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on a encore un peu de temps. Alors, merci Pierre, merci Claude Laroche, merci à vous tous d'être là, et la parole est un peu à vous. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires à faire à Pierre? Bon, ben, pour accrocher le grelot.
C'est toujours le rôle de l'animateur de poser la première question.
Pierre, un de vos premiers livres, même si c'était votre thèse, je pense, dans les mots à l'écoute, il y a toute une grande partie sur Miron. Vous avez beaucoup écrit sur Miron, vous avez édité certains de ses textes. Pourquoi ajouter à l'étude critique, à l'analyse de l'œuvre comme ça, pourquoi, à un moment donné, avez-vous éprouver le besoin de vous lancer dans cette entreprise un peu folle, longue en tout cas, de la biographie?
Bon, sans doute
qu'est-ce que ça ajoute?
Disons d'abord qu'il y avait sans doute une part d'inconscience là-dedans, mais je pressentais que la biographie pouvait faire apparaître quelque chose que ni le discours critique, ni les textes même de Miron, parce que c'est vrai... Au départ, je me trouvais devant un récit qui était tout de même déjà passablement constitué, parce que Miron, dans ses entrevues, dans ses conférences, j'ai mentionné 1990, mais même avant, à la rencontre des écrivains de 1974, dans beaucoup de textes, dans plusieurs, je pense à un grand entretien déjà en 1964 avec le journaliste Michel Roy, qui est décédé récemment, où il raconte beaucoup de choses de sa vie, de son enfance et tout. Donc, oui, il y avait déjà ce récit-là au départ. Bon. Mais je pressentais d'abord que ce récit-là, non seulement pressentais, j'en étais sûr, et plus je me suis mis à chercher, plus je m'en suis rendu compte que ce récit-là comportait énormément d'omissions, de trous. Miron répète, lorsqu'il se raconte, et c'est de plus en plus vrai à mesure qu'il vieillit, il répète de plus en plus les mêmes anecdotes. Alors, exemple, je suis, combien de fois? 100 fois. Je suis au collège un soir, en train de faire mon devoir. Le professeur à l'avant me dit, mais venez ici, Monsieur Miron, et vous écrivez. Alors, vous faites pas vos devoirs, vous écrivez des poèmes, mais vous ne suivez pas les règles. Bon, alors, je vais vous donner un manuel de versification, vous allez suivre les règles. Tout ça. Alors, ça, c'est... Ensuite, j'entre dans une librairie, 1948, à Montréal, j'ouvre par hasard un livre, qu'est-ce que je lis? Tous les pays qui n'ont pas de légende seront condamnés à mourir de froid. Les deux premiers vers de La quête de joie de Patrice Latour-Dupin. Et ça continue comme ça, là, jusqu'à aussi... Alors, ça, c'est une histoire qui vient plus tardivement dans sa vie. C'est un soir, sur la galerie à Saint-Agricole, je suis en train de lire le journal, mon grand-père, Maxime Michauville, mais il ne le nomme pas, arrive derrière moi, dit, qu'est-ce que tu fais? Tu lis le journal, t'es bien chanceux, moi, je peux pas lire. Quand on ne peut pas lire, tu sais, c'est terrible, je donnerais tout ce que j'ai au monde pour pouvoir lire. Et il ajoute, quand on ne peut pas lire, on est toujours dans le noir. Et là, Miron ajoute, et ça c'est à la fin de sa vie dans le film d'André Gladue en 1994, il dit, ça a été un choc, c'est comme si tout le noir de sa vie était entré en moi. Bon, c'est une expérience, et d'ailleurs le mot noir revient très souvent dans la poésie de Miron. Hein. Moi le noir, moi le forcené magnifique, par exemple, mais il y a plusieurs. Bon, tous les Saguenay d'eau noire de ma vie. Bon. Alors je pressentais que ce récit-là, très avec ces épisodes canoniques, si on veut, très, enfin sans cesse répétés, quand même, ne disait pas tout sur l'histoire de Miron. Mais je pense aussi, plus largement, c'est que la biographie, c'est le seul genre qui peut vraiment articuler d'une façon explicite et forte, et je dirais organique, la vie d'un individu et l'histoire de son temps. C'est-à-dire de mettre en rapport les deux. Parce que dans le discours critique, oui, mais en fait, l'histoire n'a jamais été au centre de mon discours critique. Et je veux dire, en général, ça ne l'est pas non plus. On interprète les poèmes, on peut, oui, faire des références à l'histoire. Mais là, saisir, par exemple, je veux dire, le développement intellectuel de Miron. Il faut voir qu'en 1948, hein, il applaudit quand Duplessis est réélu. Il a 20 ans. Et il est très content. Il est avec Guy Carle. Ils écoutent la radio le soir. Ils écoutent les résultats. On n'a pas encore la télé. Et ils sont très heureux de voir que Duplessis est réélu. Parce que c'est son deuxième mandat, là. Il y avait eu un autre mandat dans les années 30, mais son deuxième mandat depuis 44. Donc, il est réélu en 48, 52, 52. Alors, mais tout le développement intellectuel de Miron, sa rencontre d'abord avec, bon, tous les, l'importance des groupes de loisirs, bon, l'Ordre de Bontemps, qui est pas quelque chose de peut-être très important sur le plan comme poids ni politique ni social, mais qui tout de même véhicule des valeurs, enfin le goût de coller au réel, le goût de l'action, agir concrètement, souvent même en dehors de préoccupations idéologiques précises. Mais ça, ensuite, l'influence de la revue Esprit à travers la lecture de Mounier, ensuite l'éveil à la conscience davantage de gauche, là il s'éloigne radicalement du duplessis, mais il va finalement se porter candidat pour le CCF, ancêtre du NPD, avec Jacques Ferron, Michel Chartrand en 57-58. Donc, tout ça, tout ça. Mais là, je trouve que cette articulation-là, seule la biographie la permet. Et en même temps aussi, seule, pour moi, la biographie peut saisir l'œuvre dans, un peu comme ce qu'on voit tout à l'heure, c'est-à-dire dans sa genèse comme telle. Évidemment, on pourrait dire qu'on peut faire de la pure génétique textuelle, c'est une discipline qui existe en littérature, et d'ailleurs, j'ai une étudiante à la maîtrise, Caroline Chouinard, qui, il y a quelques années, a fait un très beau mémoire de maîtrise sur, où elle reprend d'ailleurs un peu ces thèmes-là, puisqu'elle fait la genèse de la marche à l'amour, à travers tous les brouillons de Miron, comment la marche à l'amour prend forme. Alors, on peut faire cette analyse-là, qui est parfois assez fastidieuse, difficile à tenir. Dans la biographie, il me semble qu'on veut faire quelque chose qui permet aussi de situer cette genèse-là dans le courant d'une vie, alors de revenir, par exemple, quand je reviens à la lettre à Guy Carle en 1950, ça me permet d'éclairer quelque chose qui est fondamental au moment de 1953. Donc, je peux jouer dans la chronologie, dans le temps, et développer une dynamique. Pour moi, c'est ça que permet la biographie. Évidemment, une dynamique qui est aussi orientée, où il y a des fils qui s'entremêlent, mais qui s'en vont dans une certaine direction. Donc, forcément aussi, il y a un travail de construction d'une vie là-dedans. C'est saisir... C'est toujours un peu présomptueux, là, essayer de saisir le sens d'une vie. Est-ce qu'on est vraiment... Est-ce que notre propre vie a toujours un sens? Est-ce qu'on n'a pas souvent l'impression que c'est quand même assez fragile et que ça repose... À certains moments, on le perd, ce fil-là. On se cramponne à notre mémoire ou à nos projets, mais ça reste en tout cas très ténu, tout de même, l'entité d'une vie. Qu'est-ce que c'est une vie au total? Et donc, c'est sûr, il y a à plus forte raison, reconstruire la vie d'un autre. Je reconnais qu'il y a quelque chose de presque arrogant là-dedans. En fait, il y a une effraction, là. Parce qu'il y a les fêtes, les événements, le Miron extérieur. Bon, ça, c'est pas très compliqué. On peut y recenser une multitude de faits. Mais entrer dans le personnage, c'est aussi, ça c'est un autre aspect, c'est la dimension forcément romanesque, et je ne parle pas ici d'une biographie romancée, où là, on se prive pas d'inventer des faits, non, mais la dimension romanesque au sens où on ne peut pas écrire une biographie, je pense, purement de l'extérieur. Oui, on peut recenser des faits, mais il faut absolument, quelque part, entrer dans le personnage. Et ça, seul l'imaginaire romanesque peut permettre ça, d'imaginer un peu par empathie et par un travail de l'imaginaire, donc ce qu'a pu être la vie de Miron. Et à certains moments, c'est plus explicite dans la biographie, à d'autres moments, ça paraît peut-être moins. Mais pour moi, ça, c'est absolument fondamental. Sinon, c'est une recension, une pure chronologie. Bon, finalement, et là, on peut se perdre. Ce qui tient tout ça ensemble, c'est quand même l'homme qui est au centre, le sujet, là, Miron, que j'essaie de cerner, et qu'au bout du compte, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que je le connais mieux à la fin? Oui et non. Il reste quand même une large part d'énigmes dans ce qu'est Miron et dans ce qu'est aussi sa poésie. Je veux dire, je pense qu'on peut apporter beaucoup d'éléments pour mieux la cerner et mieux cerner l'individu, mais en sachant qu'au bout du compte, l'énigme, l'essentiel nous échappe. Et quand j'entends ces poèmes, je me dis, je sais pas, on ne peut pas entièrement rendre compte de ces images-là, ni par la critique, ni par la biographie. On peut tourner autour, on peut les... Alors parfois, bon, les ans s'encordent sur mes longueurs de solitude, dans Jeune fille. Les ans s'encordent sur mes longueurs de solitude. Mais là, il y a quelque chose d'essentiel de la poésie de Miron qui se dit là-dedans. Évidemment, il fallait avoir l'idée d'encorder, de voir ces années-là qui s'empilent comme des cordes de bois et qui, comme... accumule la solitude d'une façon terrible, mes longueurs de solitude, enfin. C'est sûr que là, il y a un travail, même sur un lexique traditionnel, mais qui est complètement recyclé dans quelque chose de dynamique et de positif. Mais le début du poème de séparation, les fleurs avancées du monde, les fleurs avancées du monde agonisent de froid et le fleuve remonte seul, debout dans ses vents. C'est quelque chose de visionnaire, mais... Est-ce qu'on peut vraiment expliquer biographiquement ou autrement ces vers-là? Je pense pas. Mais, enfin, on tourne autour. On essaie de... Okay. Ouais.
Vous avez mentionné une ou deux rencontres, en fait, avec Isabelle.
Une seule.
Est-ce que vous êtes beaucoup basé sur, justement, les rencontres avec les gens qui ont connu Miron, ou surtout sur ses écrits, ses entrevues?
Je dirais quand même plus sur tous les écrits, mais alors c'est vraiment tout, y compris la correspondance et tout. Mais les témoignages, j'ai quand même fait environ 80 entrevues, mais j'aurais pu en faire 300, 400, 500 facilement. Mais enfin, je pense que il y a sans doute quelques omissions, quelques oublis, toutes sortes de raisons, mais tout de même, j'ai rencontré des gens comme Olivier Marchand, Jean-Guy Pilon, plusieurs autres. Alors les femmes... ça dépend. Isabelle, oui. Rosemary, oui, mais ça a été deux rencontres extrêmement brèves et peu... mais quand même, quand je dis jeune fille, la légende d'Isabelle, pour moi, elle m'a dit peu de choses parce qu'elle voulait pas... elle voulait pas beaucoup en parler. C'était un mauvais souvenir pour elle, je crois. Mais tout de même, ce poème-là qu'elle m'a montré, qui était dactylographié à la machine, grosse machine, Miron tapait sur une grosse machine, puis c'était même pas une machine électrique, là, c'était... Et donc, avec ce titre, La légende d'Isabelle, évidemment, c'était important. Mais dans ce cas-là, je dois dire aussi, c'est que comme ils s'étaient rendus mutuellement leurs lettres quand ils ont rompu, j'avais toutes les lettres que Miron... avait toutes, en tout cas, un grand nombre de lettres que Miron avait écrites à Isabelle. Et c'est là que je peux voir que dans les lettres, il y a beaucoup de poèmes, des extraits de poèmes. Miron a toujours fait ça, de toute façon, à tout le monde. Il l'a fait à Claude Effly aussi, quand il l'a écrit. Ça a été publié dans La Boue Portant. Alors là aussi, souvent, à la fin de la lettre, il va joindre un ou deux poèmes. Bon, alors c'est intéressant parce que souvent, c'est pas la version qu'on connaît, c'est pas la version finale, c'est une version antérieure. Alors, mais les témoignages, il n'y a rien qui peut tout à fait remplacer ça. C'est pas une question quantitative, c'est une question qualitative. C'est qu'à certains moments... une anecdote, un souvenir, je sais pas, des fois, c'est tout à fait des détails cocasses. Bon, par exemple, Jean-Marc Piotte de la revue Parti pris. Bon, alors, Piotte, c'est un militant de gauche et tout ça, et il était proche de Miron à l'époque de la revue Parti pris. Mais, à un moment donné, il me raconte ce petit détail-là, mais qui en dit long sur Miron, il dit... ce Miron, il dit, j'étais à Paris dans un hôtel, dans mon hôtel, dans une petite rue tranquille, vous savez, 7h du matin, j'entends une voix tonitruante dans la rue. Alors, les autres clients ont dû vraiment apprécier. Piotte, viens-t'en, on va aller visiter Paris. Bon, alors, et là, il dit, et alors, puis en plus, il dit, il marchait tellement vite que je pouvais pas le suivre. Bon, tout ça. Alors, bon, c'est un petit détail anecdotique, mais ou alors aussi, bon, ce que je raconte aussi sur le pont du paquebot Homérique, lorsque Miron traverse pour la première fois, il traverse en bateau, et là, il y a là la femme d'Yves Michaud, qui est connue aujourd'hui, politicien, militant, un peu contre le Robin des banques. Et, à l'époque, il est journaliste et tout. Hein. Et sur le pont du navire, Monique Michaud, sa femme me dit « je vois un attroupement ». Et je m'approche et là je dis « mais c'est qui est en... » Il y a quelqu'un au milieu qui est en train de discourir. Et les gens lui disent « c'est Gaston Miron, le poète, l'éditeur et tout ça ». Mais à l'époque, il est encore... il commence à être connu tout de même, mais elle ne le connaissait pas. Et ce qu'elle entend, la seule phrase dont elle se rappelait, que je cite dans la biographie, parce que pour moi, c'est tout un rapport à la France qui se dit dans cette phrase-là, c'est « je m'en vais apprendre le Québec aux Français. Je m'en vais leur enseigner le Québec. » Alors, c'est l'idée, je m'en vais pas pour apprendre quelque chose, mais je m'en vais leur apprendre. Alors, ce côté, alors ça, c'est, et je le dis plus tard, finalement, ça a été une des clés du succès de Miron en France, c'est qu'il n'est pas arrivé en, comme souvent les Québécois, surtout à l'époque, arrivaient, c'est-à-dire un peu en colonisé, en tout cas, en étant très timide, en disant, on est, ma foi, on n'est pas tout à fait au même niveau sur le plan culturel. Non, lui, il arrive... paradoxalement de plein pied, parce que quand il est ici, il dit aussi qu'on est dans la pauvreté, dans le manque de moyens, tout ça, mais quand il arrive à Paris, au contraire, il est de plein pied. Et les gens, en fait, les Parisiens adorent ça. Les gens de la revue Esprit, tous les autres, se prennent d'affection pour lui. Alors, il se fait des amis qui vont d'ailleurs le demeurer dans plusieurs cas toute sa vie. Robert Marteau, Édouard Glissant, plusieurs autres, André Fresneau, bon, etc. Miron, d'abord, au moment de Refus global, il est à Montréal en 48. À vrai dire, rien n'indique qu'il en ait même connaissance, ou en tout cas, c'est très, très éloigné de ses préoccupations et de sa... et de son univers, finalement. Miron est pas du tout quelqu'un du refus ou non plus de l'avant-garde et tout ça. À l'époque, alors... peu à peu, ensuite, dans les années 51-52, il va effectivement dans les cafés de la rue Sherbrooke, près de l'École des Beaux-Arts, et là, il croise Gauvreau, le peintre Jean-Paul Mousseau, et il y a même une rencontre ou deux avec Bordua qui se trouve à passer à un moment donné, mais c'est pas son monde. Puis il est dans quelque chose... À l'époque, vous savez, Roland Giguère, qui commence à publier vers 49 et qui, en fait, Giguère serait plutôt, bien qu'il soit pas dans le groupe de Refus global tout de même, il écrit une poésie surréaliste, quand même, qui est en rupture très nette avec la poésie traditionnelle. Hein. Et Giguère, dans certaines entrevues par la suite, dit « Mais les gens de l'Hexagone, là, Miron puis les autres, ils me paraissaient des Boy Scouts à l'époque. » Ils étaient pas dans le, ils étaient pas modernes, ils étaient pas dans le coup. Ils font des loisirs, ils font de la danse de folklore et des gigs, gigs, Miron, gigs. C'est ça aussi, là, dans l'ordre de bon temps. Oui, c'est ça. Puis le clan Saint-Jacques, c'est vrai, c'est des mouvements, scouts qui ont pas de grandes prétentions. On fait du camping dans le nord, on crée une auberge de jeunesse, et à Montréal, ben, Miron, il va dans les paroisses pour animer le soir, et il le fait de façon frénétique, des danses carrées, même dans ses carnets, il y a parfois des petits schémas pour apprendre les pas des danses. Enfin, il indique à l'avance toutes les... Alors, donc, il devient d'ailleurs un très recherché Miron à l'époque, comme caller de set, comme on disait à l'époque. Mais il l'a fait toute sa vie par la suite. Hein. Il le faisait dans les fêtes de la Saint-Jean. Par exemple, quand Michel Lalonde habitait dans Outremont, là, il allait dans sa rue, il y avait une fête, rue Bloomfield, je crois, il animait les danses traditionnelles le soir de la Saint-Jean. Donc, non, et en plus de ça, oui, il y a un autre aspect, moi, que je mentionne et qui me paraît intéressant, c'est que les gens de Refus global, si vous avez vu le film de Manon Barbeau, quelque chose, hein, Les enfants du Refus global, elle développe beaucoup, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ici? Mais en tout cas, je vous le recommande fortement, parce qu'elle montre à quel point l'idée de famille pour les gens de Refus global est quelque chose de négatif. Il faut rompre, si on veut rompre avec l'ordre établi, ça veut dire rompre avec l'ordre familial. Et ça donne lieu à des scènes dans ce film-là, parfois terribles, surtout entre elle et son père, parce que le peintre Barbeau a vraiment rompu passablement avec sa famille, et Manon Barbeau en a beaucoup souffert. Et il y a une scène où elle va le retrouver à Paris, je pense, il est devant sa toile, puis là, elle lui parle, du moins, elle essaie de lui parler, puis il veut rien entendre, il veut rien reconnaître, il veut pas reconnaître qu'elle a pu souffrir de ça, etc. Alors que Miron est un homme de la famille, qui cherche toute sa vie à reconstituer une famille. Sans doute aussi parce que ça lui a manqué, il l'a quitté pour aller chez les frères. Mais ensuite, les femmes qui cherchent très souvent, et ça va devenir finalement à la fin, ses plus belles réussites amoureuses, c'est avec des femmes qui justement lui ont permis de recréer une famille. Sandrine Berthiaume, à la fin des années 70, elle avait un enfant. Et Miron avait déjà sa fille, mais Miron, sa propre famille, ça avait échoué. Bon, la mère d'Emmanuel était malade, et donc il élève seul sa fille. Mais là, quand il trouve Sandrine, voilà, là, c'est l'occasion de retrouver un petit nid familial. Il loue des chalets dans les Laurentides. Il est très heureux là-dedans, autour du foyer, aller dans la forêt, faire du ski de fond et tout ça. Et ensuite, avec Marie-André Baudet, qui, elle, avait deux enfants, à nouveau. Là, donc, l'idéal de la famille, de fonder une famille, est un idéal, finalement, pas du tout révolutionnaire, très traditionnel, très présent chez Miron. C'est, en même temps, il faut dire que, peu à peu, au fil des années, l'Hexagone va intégrer Paul-Marie Lapointe, qui a écrit donc Le Vierge incendié, qu'on va retrouver à l'Hexagone, dans Le Réel absolu, va intégrer Giguère, va intégrer tous les poètes qui étaient, en fait, même Gauvreau va finir aussi par publier à l'Hexagone, donc va intégrer tous les poètes qui étaient dans la mouvance de l'automatisme et du surréalisme. Donc, sur le plan éditorial, c'est sûr qu'il finit par les retrouver, mais en même temps, il y a quelque chose de très éloigné de Refus global chez Miron. D'ailleurs, il l'a mentionné, par exemple, quand il écrit à Guy Carle, là, et c'est juste après, là, c'est 1949, 50, 51, il ne fait jamais mention de ça. Ça n'existe pas pour lui.
On a le temps pour une autre question. Quelle a été la découverte la plus inattendue?
Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, qu'est-ce que ça serait là? Mais moi, c'est sûr que son enfance, je pense que j'en connaissais très peu de choses et découvrir, par exemple, quand sa sœur, je me souviens de la première rencontre que j'ai eue avec sa sœur Denise, qui a 2 ans plus jeune que lui, mais qui est toujours bien vivante, qui a une très bonne mémoire de leur enfance. Je veux dire, quand elle s'est mise à me raconter comment s'étaient rencontrés son père et sa mère, et ensuite comment son père, par exemple, avait offert un mobilier quand même assez luxueux, une laveuse, à l'époque c'était encore avec des tordeurs, je pense que c'était pas encore les laveuses, mais une laveuse vraiment, c'était la plus haute qualité, une bague, une très belle bague pour ses fiançailles. Là, je dois dire, j'ai eu un choc, parce que beaucoup de gens, même aujourd'hui encore, pensent que Miron a été élevé dans la pauvreté. Et la pauvreté, c'est une découverte ultérieure chez Miron. Et surtout ensuite, quand il s'est trouvé à Montréal. Parce que même chez les frères, Miron n'était pas pauvre. Il était logé, nourri. Il n'y a aucun moment, on a l'impression, non. Tout se passait bien. Il était à l'aise. Et il n'y avait pas à se soucier, d'ailleurs, de rien, puisque tout était fourni. Enfin, il n'y avait qu'à suivre des cours et le cheminement qui le menait éventuellement vers la profession de frère instituteur, ce qu'il a été pendant un an. Mais je dois dire que cette découverte-là de son enfance sûrement a été très importante, mais il y en aurait sans doute... moi, je dirais une autre qui m'a... Je dirais c'est... Je me doutais pas que la France et Paris avaient joué un rôle si important dans sa vie à partir de 1980-81. C'est-à-dire au point où même c'est revenir au Québec qui lui apparaît un exil à un moment donné. Tellement il est bien à Paris et tellement il se sent chez lui. C'est une découverte pour moi assez étonnante. Et il l'écrit dans des lettres, on voit à quel point... il faut voir qu'on est après la défaite du référendum 1980. En même temps, il vient de publier L'homme rapaillé à Paris, donc il reçoit beaucoup d'invitations, mais ça fait son affaire de se retrouver là-bas parce que ça le libère du poids de... Il faut dire que le Québec, du début des années 80 en particulier, est très dépressif. Dans le milieu indépendantiste, c'est un peu la déroute. Au Parti québécois, ça va extrêmement mal. Ça aboutit à la démission de René Lévesque. Il y a Parizeau et Camille Lorrain quittent le Parti québécois. On a l'impression que plus rien ne va, là. Et ensuite, bon, Bourassa est élu aux élections en 85. Ce bonheur d'être à Paris, de baigner dans la langue française, mais dans une langue française qui va de soi, qui n'est pas en conflit quotidien avec l'anglais, obsession absolument profonde de Miron, toute sa vie, la présence de l'anglais, l'obsession de l'anglais, ça devient parfois presque pathologique chez Miron, hein, cette part de l'anglicisme aussi qui devient, il les traque partout, là, hein, c'est vraiment, ça devient même sur le plan de l'écriture, ça finit par le paralyser, je veux dire, c'est certain que ce soupçon linguistique-là devient si profond que y a un malaise là dans la langue. Alors, quand il sort de ça, puis qu'il se retrouve à Paris, c'est le bonheur. Moi, je l'ai vu à Paris en 86, c'est le moment d'ailleurs où je l'ai vu le plus. Il était près du bon, il habitait rue de Vaugirard, comme il avait habité auparavant aussi, en 84-85. Il était bien à Paris, et il avait aussi plein de contacts, il avait ses amis très occupés, tout ça, du matin au soir, mais surtout apaisé de se retrouver dans ce bonheur linguistique, là, ce bonheur de la langue française comme tel. Alors, ce qui est un peu ironique, c'est qu'à la toute fin de sa vie, en 95, je crois, là, il se trouve conscrit par des amis français pour signer un grand article qui paraît dans tous les journaux pour dénoncer l'anglicisation de la France. Alors ça, c'était pour dire les anglicismes sont de plus en plus importants. Notre français est en train d'être contaminé par la langue anglaise. Et c'est des mots très forts pour dire, bon, l'anglais, c'est vraiment l'ennemi absolu. Et tout ça. Et donc, là, Miron, bien sûr. Alors là, oups! Mais ça, c'est vraiment à la toute fin de sa vie.
Est-ce que Gaston Miron serait content de votre biographie?
Je ne veux pas répondre à cette question-là. Je pense que ça, il tournerait ça à la blague, ça, c'est sûr. Il ferait, je ne sais pas quelle blague il trouverait pour me qualifier ou pour qualifier le livre. Probablement qu'il ironiserait sur le poids du livre. Ça, sûrement, ouais, il dirait.
Par rapport au siège, hey, par rapport au siège.
Parce qu'il y avait, ce... Pardon?
Par rapport au...
Oui, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça. D'ailleurs, il faut dire, Miron, je cite ça dans la biographie, quand il admirait les écrivains, comme lui, il se reprochait toujours quand même d'avoir écrit que ce seul livre et que ce ne soit pas un gros livre, mais enfin, peu importe. Comme je le dis toujours, l'œuvre de Miron est aussi abondante que celle de François Villon. Puis Villon, on en parle après 5 siècles. Ben bon, ce n'est pas un argument, c'est vraiment la quantité. Bon, mais oui, quand Pierre Morency publie là, chez Boréal le premier volume de ses Histoires naturelles du Nouveau Monde, L'œil américain, je crois que Miron est à l'hôpital parce qu'il est opéré pour la hanche à ce moment-là, et Morency lui apporte son livre. Et Miron, lui, en voyant le livre, dit « Ah! » Parce que tout de même, Morency avait publié plusieurs recueils avant. « Enfin, t'es un vrai écrivain. » Alors, je sais pas s'il dirait ça de moi. Peut-être « Enfin, t'es un vrai écrivain. » Bon, enfin, c'est un compliment qui peut se prendre.
Non, mais merci, Pierre. S'il y a personne d'autre qui veut intervenir, il me reste donc à remercier encore une fois notre lecteur, oui. Et à vous tous. Et, bon, alors, Pierre est disponible encore un peu.
Pour... Ouais. Merci.